15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Ici, tous les jours, de 15h à 16h, nous vous recevons avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux allergies alimentaires chez les enfants. Sont-elles réellement en augmentation? Comment les diagnostiquer et les prendre en charge? Bien sûr, on fera le point avec notre invité, le docteur Karine Billard-Larue, allergologue en région parisienne. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va parler de la vaccination contre les papillomavirus, les HPV, chez les petits garçons. Ça y est, c'est officiellement recommandé de le faire. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va parler d'un accident de la vie courante, l'étouffement. Comment réagir quand l'un de vos proches avale un aliment de travers? On vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de la nudité en famille. Y a-t-il un âge à partir duquel les enfants peuvent être dérangés de voir le corps de leurs parents? Catherine fera le point, bien sûr.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Marie-Pierre.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je m'appelle Marie-Pierre et en fait j'ai un problème par rapport à la constipation. Et j'ai l'impression que quand je prends du café, et peut-être aussi du café au lait, eh ben, ça me va mieux, ça fait glisser tout seul. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que le café me fait aller aux toilettes?
Le café, alors je disais hors antenne, du coup je peux le dire, le café clope aussi, ça marchait très bien. Alors je ne fume plus, du coup ça marche plus, mais on s'en fiche, on peut manger des fibres et ça marche très bien. Alors Jimmy, est-ce que c'est vrai que ceux qui boivent juste du café, ils l'ont peut-être remarqué d'ailleurs, hein, une ou deux tasses le matin et ça peut aider à aller un petit peu aux toilettes. Moi j'ai toujours pensé que c'était un effet de la caféine, mais je crois qu'en fait c'est pas du tout ça.
Oui, c'est un congrès américain à San Diego qui a révélé ça, et c'est une étude où on s'est amusé à donner à des rats du café durant 3 jours. Et ils ont remarqué que leur petit intestin tout mignon, leur côlon, se contractait beaucoup plus et donc entraînait de la diarrhée comparativement à ceux qui ne prenaient pas de café. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient exactement les mêmes résultats en donnant du décaféiné.
Ah oui.
Et donc, ce ne serait pas la caféine qui entraînerait ça, ce serait plutôt autre chose.
D'accord. Et je crois qu'ils ont même vu la même chose in vitro sur des rats pas vivants, donc juste sur des tissus d'intestin, en fait. Hein, en donnant du café ou du décaféiné,
c'est
on voyait
chose.
Ces muscles intestinaux de rongeurs qui travaillaient différemment, qui étaient plus actifs. Alors, donc, ce n'est pas le café, mais c'est quoi c'est pas la caféine qui est en cause pour cet effet peut-être un peu laxatif. C'est une autre hypothèse. Hein,
c'est encore quelque chose qu'on adore ici, c'est le microbiote. Ce serait encore une fois cette flore intestinale qui serait responsable de cette diarrhée, ou en tout cas de ce transit qui serait facilité avec l'effet de caféine, parce qu'au bout des 3 jours, ils ont analysé la flore digestive et du coup les matières fécales des rats. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient moins de bactéries dans leurs matières fécales. Et puis du coup, ils ont dit, on va faire une autre expérience. On va prendre des matières fécales de rats, on va leur rajouter un peu de caféine, une solution contenant 1,5% de café. Et bien là, encore une fois, on s'est rendu compte que les bactéries étaient moins présentes.
Ça réduisait le nombre de bactéries
dans la flore intestinale. Et plus on donne de café, moins il y a de bactéries. Ils ont fait exactement la même expérience avec du café dosé à 3%. Et encore une fois, on avait encore moins de bactéries. Donc, il y a un impact du café sur notre flore intestinale,
d'accord,
qui a un impact ensuite sur notre transit.
Alors, néanmoins, pour l'instant, ça a été montré, vous m'arrêtez si je fais erreur, mais que chez des souris, chez des rats, parce que chez nous, chez les humains, peut-être que ça ne fonctionne pas exactement de la même manière.
Vous ne faites jamais erreur, Mélanie.
Ah,
et encore une fois, là,
vous me faites un compliment.
Non, mais vous avez raison. Donc, ce n'est pas parce que les études chez l'animal montre cela qu'on pourra transposer chez l'homme les mêmes résultats. Néanmoins, on se dit que c'est une piste intéressante, qu'on pourrait peut-être modifier le microbiome au travers de la caféine. Et puis, résultat, c'est que derrière, à des applications thérapeutiques demain, un patient après, notamment une constipation, un traitement chirurgical, il est constipé, il a un ileus fonctionnel, donc le transit met du temps avant de se remettre en route. On pourra peut-être leur donner de la caféine, et donc peut-être qu'à l'avenir, la caféine fera partie des traitements recommandés contre la constipation, en complément de manger des fibres, de s'hydrater, boire une eau riche en magnésium. Donc c'est une piste assez intéressante.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Marie-Noël, 47 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Dr Mohamed. Voilà, j'ai lu dans la presse qu'un homme était mort suite au fait que son chien l'ait léché. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait des précautions à prendre. Ça m'inquiète un petit peu. Merci, au revoir.
Alors c'est vrai, Jimmy, j'ai lu ce fait divers il y a quelques semaines. C'est un Allemand, je crois, de 63 ans, qui est décédé des suites d'une infection bactérienne grave qui lui avait été bel et bien transmise par son chien, d'après ses médecins. Mais expliquez-nous comment tout ça est possible, en fait.
Oui, c'est dans un journal, je crois que c'est votre journal préféré, c'est l'European Journal of Internal Medicine.
Oui, tous les soirs.
C'est le journal de médecine interne européen qui explique qu'un homme a été contaminé par une bactérie qui a un prénom aussi mignon que le vôtre, Mélanie. Il s'appelle le Capno. Cytophaga,
vous êtes en
canimorsus.
Forme, hein,
oui, il a été transmis par un chien, cette bactérie, avec une simple une léchouille. Il n'a pas été mordu,
chien, ouais.
Il n'a pas été griffé. Et sauf qu'on rigole, mais les conséquences ont été dramatiques. Le patient est mort finalement, d'autant plus qu'on a eu des cas assez graves, mais chez des patients qui avaient normalement un déficit immunitaire.
Et là, il
ça tuait les
santé,
gens plutôt fragiles. Là, ce monsieur, il n'avait aucun problème. Il s'est présenté à l'hôpital avec un syndrome grippal plutôt sévère. Et le syndrome grippal a dégénéré. Et lorsqu'il a dégénéré, on l'a traité avec des antibiotiques. Mais finalement, on a fait ça un peu trop tard.
Mais comment ça peut dégénérer une léchouille de chien là ? Je ne comprends pas.
Ça reste assez rare. Néanmoins, encore une fois, c'est plutôt des personnes fragiles, immunodéprimées. Le problème, c'est qu'il y a eu un retard de prise en charge dans le sens où on a mis du temps avant de se rendre compte que le patient avait été simplement léché. Ce n'est pas quelque chose de très intuitif.
Il n'y a pas de piqûre,
de
morsure.
Il n'y a pas
de
morsure qui aurait pu attirer les choses. Surtout qu'il avait un syndrome grippal avec des signes respiratoires. Et donc, il est mort. Moralité, mieux vaut se faire lécher par son conjoint que par son chien.
Non, celle-là, je ne m'attendais pas à une chute comme ça. En tout cas, face à une léchouille de chien et des signes infectieux derrière, surtout, il faut faire penser.
Évidemment, mais si vous avez un syndrome grippal atypique après avoir été léché par votre chien et par votre conjoint, il faut consulter, évidemment.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Marie-Noël qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed, qui est en pleine forme, va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il refait un point sur la vaccination contre le papillomavirus. Ça y est, elle est recommandée chez les petits garçons. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le docteur Karine Béillard-Larue, avec qui on va parler des allergies alimentaires chez les enfants. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Karine Billard-Larue, avec qui on va faire le point sur les allergies alimentaires, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la recommandation qui a été publiée hier de la Haute Autorité de Santé qui concerne l'extension de la vaccination contre le HPV chez les petits garçons. Rappelez-nous d'abord, c'est quoi le HPV ?
Alors c'est les papillomavirus qu'on appelle HPV. C'est des virus qui sont très fréquents et qui touchent autant les hommes et les femmes. Ils infectent la peau et les muqueuses et on le retrouve principalement au niveau de la sphère génitale, de la gorge et de la bouche. Et on sait que c'est l'infection, on considère que c'est la première IST virale qu'on rencontre. Donc c'est la première infection sexuellement transmissible qu'un homme ou une femme a rencontrée dans sa vie. Et on sait que plus de 70% des hommes et des femmes sexuellement actifs le rencontreront au moins une fois dans la vie.
Oui, donc effectivement, la fréquence est très importante. Pourquoi alors cette vaccination ?
Donc on a dit que c'était des virus qui sont très communs, très fréquents et qu'on retrouve au niveau de la peau et des muqueuses. Mm-hmm. Ils peuvent donner des tumeurs bénignes qu'on appelle les verrues. C'est pas très grave, c'est inesthétique. Mais pire encore, ils peuvent donner des lésions précancéreuses et cancéreuses. Et on sait que lorsqu'on associe la vaccination avec le dépistage, avec les frottis notamment du col de l'utérus, on permet de réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus qui tue chaque année 1000 femmes par an.
Ah oui, c'est pas rien.
Ce qui veut donc dire que pour l'instant, on vaccinait les petites filles de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans. Et pour l'instant, chez les hommes, on vaccinait les hommes de moins de 26 ans ayant des relations sexuelles avec les hommes.
Mmh. Et donc, les nouvelles recommandations, elles s'appuient sur le fait que, d'ailleurs, bon, déjà, la stratégie vaccinale, elle évolue dans le temps. Et puis, il y a d'autres pays qui l'avaient déjà étendue aux petits garçons, à tous les garçons, pas que ceux qui ont des rapports sexuels avec les hommes, des petits garçons enfants. Hein,
et oui,
ça
parce que près de 25% des cancers provoqués par les HPV surviennent chez les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et c'est pourquoi la ministre de la Santé avait saisi la Haute Autorité, avait fait cette consultation pour savoir s'il fallait étendre la vaccination chez tous les garçons. Et donc, après avoir analysé la littérature,
toutes les études sur le sujet,
exactement,
etc.
Vu ce qu'on faisait un peu ailleurs, et ben on s'est rendu compte qu'on va recommander la vaccination des jeunes garçons entre 11 et 14 ans avec un rattrapage à 19 ans.
Comme les petites filles.
Exactement, comme les petites filles. Et donc, ça permet à la fois de protéger les filles, mais aussi les garçons. Donc, il y a une protection individuelle et collective.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour consacré aux allergies alimentaires. C'est le docteur Karine Billard-Larue. Elle est allergologue à l'hôpital de Meaux et d'Aulnay, en région parisienne.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Billard-Larue.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui on parle d'allergies alimentaires. D'abord est-ce que c'est très fréquent dans la population ou pas ? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la prévalence de ces maladies ?
Alors, on n'a pas la prévalence exacte, mais on estime que ça touche entre 3 et 6% des enfants, donc c'est quand même assez fréquent, oui.
Oui, quand même 3 à 6%, ça fait quelques enfants. Est-ce que, comme les allergies respiratoires, dont on parle peut-être un peu plus, on n'arrête pas de dire les allergies quand il y a la saison des allergies, les rhumes de foin, etc., qui débarquent au printemps, on dit souvent c'est en augmentation, il y en a beaucoup plus qu'avant. Est-ce que là aussi, dans l'allergie alimentaire, vous voyez beaucoup plus de monde qu'avant ?
Oui, il y a énormément d'augmentation. On parle même d'épidémie d'allergie. Hein, donc, c'est vraiment en augmentation sur les dernières années.
Mais est-ce qu'on a une explication pourquoi tout d'un coup, les gens deviennent plus allergiques qu'auparavant ? Est-ce qu'il y a une théorie hygiéniste qui fait que, on les préserve un peu de tout, on ne veut pas qu'ils touchent le sol, on attend avant de leur donner des aliments ? Est-ce qu'on serait peut-être un peu responsable de cette augmentation ou rien à voir ? Et c'est peut-être des trucs dans l'environnement qui nous rendent allergiques ?
Alors, il n'y a probablement pas un seul facteur qui explique ça. Effectivement, la théorie hygiéniste, c'est le fait que notre corps ne se défend plus trop contre les bactéries usuelles qu'on a quand même beaucoup éliminées et que le système immunitaire, du coup, trouve d'autres réponses.
Donc, moralité, faut pas, quand un enfant est par terre, faut le laisser par terre, par exemple.
Faut le laisser lécher le sol, se traîner dans la boue.
La chaussure, mais au moins être un peu moins.
Moi, ma fille, elle léchait les roues de la poussette. Je sais pas, je l'ai laissé faire, du coup, je me suis dit.
Ah, c'est donc ça,
on sait qu'il y a des bons microbes qui. Par lesquels on doit être colonisé. Là à lécher le sol, je ne sais pas. Mais, voilà.
Mais l'environnement, est-ce que ça y a la pollution ou est-ce que d'autres choses comme ça, c'est des hypothèses aussi pour expliquer ?
Oui, probablement que ça joue, effectivement. Ça a été montré au niveau respiratoire, mais probablement que ça joue aussi au niveau alimentaire. Oui.
C'est quoi les allergies alimentaires les plus fréquentes ? Enfin, les aliments, en tout cas, qui sont le plus souvent incriminés, peut-être ?
Alors, chez le tout petit, ça démarre évidemment avec le lait de vache. Et puis après, on a aussi fréquemment l'œuf, l'arachide, les fruits à coque, le poisson, qui sont des allergènes assez fréquents.
Et ça commence tout de suite. Hein, ça peut commencer tout bébé. Vous dites d'abord le lait, c'est la première allergie en général.
Alors, c'est celle qui touche le plus le tout petit. Et ça peut commencer très, très tôt dans la vie, effectivement.
Alors, vous restez avec nous, docteur Billard-Larue. On n'en a évidemment pas terminé. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe au diagnostic de ces allergies alimentaires chez l'enfant. Vous allez voir que cela peut survenir même chez les tout petits nourrissons de quelques semaines de vie à peine. Quels sont les examens pour confirmer une allergie chez son enfant ? Et d'ailleurs, qui consulter ? On va tout vous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Karine Billard-Larue. Elle est allergologue à l'hôpital de Meaux et d'Aulnay. Alors docteur, aujourd'hui on parle des allergies alimentaires. D'abord, vous nous avez dit tout à l'heure que ça pouvait survenir à n'importe quel âge. Mais quand même, je me suis dit que n'importe quel âge, c'est quand même pas un nourrisson qui est encore allaité. Il peut être allergique au lait de sa mère, par exemple.
Alors, il peut être allergique à certaines protéines qui passent dans le lait de sa mère. Alors, c'est vraiment pas le cas le plus fréquent. Il faut rassurer les mamans qui allaitent.
Mais ça existe.
Et puis, le cas le plus fréquent pour le lait, c'est la maman qui arrête son allaitement, qui donne le premier biberon de lait. Et là, ça va entraîner des manifestations chez l'enfant.
Ah oui, effectivement. Donc, ça peut arriver à 2-3 mois, enfin, à n'importe quel moment de la vie.
Justement, comment on s'en rend compte ? Parce qu'il y a souvent une errance diagnostique, parfois, mais de longs mois avant de savoir. Comment est-ce qu'on sait qu'un bébé est allergique aux protéines de lait de vache ? Il a quoi comme symptômes ?
Alors, il y a plusieurs types d'allergies aux protéines de lait de vache. Là, on parle des allergies qui sont vraiment qu'on appelle nous IgE médiées. C'est des allergies qui sont très brutales. Les symptômes se passent toujours très rapidement après la prise de l'aliment. Classiquement, on tolère une durée de 2 heures, mais en général, c'est beaucoup plus rapide que ça. Et ça peut toucher un peu tous les organes. Donc, ça peut être des signes cutanés comme de l'urticaire ou une rougeur. Ça peut être des gonflements, mais ça peut aussi être des signes de gêne respiratoire, des maux de ventre, voire même un malaise. Et dans ces cas-là, on parle d'anaphylaxie.
Un petit bébé qui a son biberon de lait et qui a des diarrhées, comme ça peut être ça le symptôme de l'allergie alimentaire.
Alors, si les diarrhées surviennent rapidement après la prise du biberon, si c'est à distance, on n'est plus dans ce cadre de cette allergie-là. Peut être d'autres formes d'allergies qui sont moins sévères.
C'est quoi les plus jeunes bébés que vous ayez à traiter dans vos consultations ? C'est ça ? C'est quelques mois ?
Oui, quelques mois, oui, avec des allergies au lait.
Vous parliez des symptômes là, chez le bébé pour le biberon de lait, mais chez les enfants un peu plus grands qui sont allergiques aux œufs ou à autre chose, les symptômes, c'est les mêmes ou est-ce qu'il y a d'autres symptômes d'allergie alimentaire ?
Non, ça va être les mêmes. Là encore, la chronologie, elle est importante. C'est rapidement après la prise de l'aliment, mais c'est les mêmes et ça peut toucher un peu tous les organes.
Et quand vous dites rapidement après la prise de l'aliment, c'est-à-dire qu'il faut que les parents se laissent quoi, 2-3 heures ? Un aliment qu'on aura ingéré à midi, est-ce qu'on peut faire une réaction à 18-19 heures ou ça doit se passer très vite ou au contraire, c'est très aléatoire ?
Alors, les réactions les plus sévères, elles se passent très très rapidement après la prise de l'aliment. Souvent, c'est dès que l'enfant a l'aliment en bouche. Quand on fait des tests de provocation aux aliments, des fois, l'enfant met un morceau de cacao cacahuètes dans sa bouche et il réagit vraiment instantanément. Donc ça peut même être une réaction à l'inhalation, le fait de sentir l'aliment, ça peut déclencher la réaction.
L'enfant allergique à la cacahuète, il sent, il se met la tête au-dessus d'un bol de curly.
C'est tout fréquent chez le poisson. Des fois, on a des enfants qui ont des nausées quand ils sentent le poisson. C'est pas juste l'écœurement. Ça peut être, comme vous le dites, un signe.
Exactement. Moi, je dis à mes patients qu'ils ont des antennes et qu'ils sentent que ça ne leur fait pas du bien. Et effectivement, juste l'inhalation, ça peut déclencher les manifestations.
C'est fou, ça. Une allergie à la cacahuète, par exemple, c'est assez fréquent, je crois, l'allergie à la cacahuète dans les allergies alimentaires. Ça peut arriver à quel âge, en général? Est-ce qu'il y a un âge particulier? 3, 4, 5? On ne mange pas des cacahuètes à 3 mois, a priori. Donc, c'est quel âge?
Oui, en général, c'est quand on introduit peu de temps après l'introduction de l'aliment dans l'alimentation. Il n'y a pas d'âge vraiment, quoi. Ça dépend des familles et de quand elles donnent les cacahuètes.
Et ça peut arriver aussi, c'est-à-dire beaucoup plus tard, par exemple, un enfant qui a toujours toléré le poisson, du jour au lendemain, à 9 ans ou 10 ans, tout d'un coup, il peut devenir allergique aux crustacés ou aux poissons?
Oui, pour les allergènes qu'on ne mange pas tous les jours, comme le poisson, effectivement, on peut devenir du jour au lendemain allergique. Ça peut même se déclarer à l'âge adulte. Hein.
Ah oui.
Et au contraire, est-ce qu'une allergie peut s'améliorer dans le temps? C'est-à-dire qu'on est allergique, par exemple, au lait, et puis au bout de quelques années, ça rentre dans l'ordre? Ou au contraire, il faut se dire que c'est pour la vie et faire attention?
Alors, il y a des allergènes classiquement qui guérissent avec le temps. C'est le cas du lait, c'est le cas des œufs. Donc, dans la grande majorité des cas, il faut rassurer nos auditeurs, ça guérit. Alors, malheureusement, il y a toujours des...
Donc, la fraise, par contre, une allergie à la fraise et cacahuète, a priori, c'est pour la vie, ça, par contre.
Alors, fraise, il n'y a pas trop d'allergie à la fraise. C'est juste que ça contient beaucoup d'histamine. Donc, ce n'est pas vraiment des manifestations d'allergie. Mais la cacahuète, oui, c'est des allergies qui persistent avec le temps puis qui sont vraiment potentiellement sévères.
Docteur Karine Billard-Larue, on va continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va passer évidemment au traitement des allergies alimentaires. Alors, il y a deux types de traitements. Celui d'urgence à utiliser en cas de crise allergique aiguë après l'ingestion d'un aliment. Et puis celui qui permettrait de potentiellement soigner, en tout cas mettre en sourdine l'allergie alimentaire. On vous dira tout juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Karine Billard-Larue, allergologue à l'hôpital de Meaux et d'Aulnay. Alors docteur, il y a quelques minutes, on a parlé du diagnostic un petit peu des allergies alimentaires. À présent, on va passer quand même au traitement. C'est ce qui intéresse sûrement, j'imagine, nos auditeurs. D'abord, il y a le traitement aigu, hein, c'est-à-dire un enfant allergique qui va ingurgiter un aliment auquel il est allergique. Typiquement, il peut avoir une crise, avoir de gros symptômes. Là, il y a un traitement d'urgence à avoir toujours sur soi. C'est quoi le traitement d'urgence de l'allergie?
Oui, alors le traitement d'urgence...
Vous l'avez sur vous d'ailleurs,
voilà,
je crois.
Voilà, je l'ai ramené, c'est l'adrénaline. Donc j'ai ramené un stylo factice. En effet, les enfants, quand ils font des réactions qu'il y a au moins deux organes touchés, on parle d'anaphylaxie et donc il y a un seul traitement à faire. C'est l'adrénaline qu'on fait dans la cuisse.
Heureusement
qu'il est
factice parce que je viens de me piquer.
Par voie intramusculaire. Alors il faut débloquer le système, c'est pas très visuel à la radio. Ouais. Et puis après on appuie au niveau de la cuisse. L'adrénaline, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est une hormone que nos surrénales sécrètent quand on a une grosse frayeur. Et administrer par cette voie-là, aux doses qu'on donne là, c'est absolument pas dangereux. Par contre, clairement, ça peut sauver la vie. Plus on fait l'adrénaline tôt, plus on a de chances que la crise passe et qu'il n'y ait pas de souci.
Indispensable pour ces enfants-là. Jimmy?
Et donc, c'est un enfant qui aurait des signes respiratoires, donc il y a du mal à respirer. Ce n'est pas simplement l'urticaire classique qu'on peut avoir avant de faire l'adrénaline.
Alors, effectivement, les signes cutanés isolés, ce n'est pas nécessaire de faire l'adrénaline. Après, la définition de l'anaphylaxie, ça a changé sur les dernières années. À partir du moment où il y a deux organes atteints, effectivement, on considère qu'il y a un risque, que la machine est en train de s'emballer et c'est à ce moment-là qu'il faut faire l'adrénaline. Mais encore une fois, comme il n'y a pas de risque à le faire devant un enfant qui a avalé quelque chose qui est allergique et qui ne va pas bien, il ne faut pas hésiter à piquer.
Même s'il n'y a pas d'étouffement majeur à ce moment-là.
Oui. Mais avant d'en arriver là, l'idéal, c'est d'apprendre aux enfants d'éviter dès le plus jeune âge les aliments auxquels ils sont allergiques. Donc, il faut faire une forme d'éducation à ces enfants.
Oui, l'éducation thérapeutique, c'est primordial, effectivement. Donc, il faut apprendre aux enfants. Alors, le premier objectif, c'est de savoir dire non, de refuser un aliment qu'ils ne connaissent pas. Et puis, aux enfants et aux parents, à lire les étiquettes, puisqu'il y a un certain nombre d'allergènes qui sont à déclaration obligatoire.
Ça doit être compliqué quand même pour ces enfants-là. Voilà, ils peuvent manger à la cantine, par exemple?
Alors, ils peuvent dans certains cas, enfin, ils peuvent manger à la cantine, oui, bien sûr. Après, dans certains cas, ils peuvent manger comme les copains quand c'est des allergènes qui ne sont pas très fréquents, comme la cacahuète. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans les cantines scolaires. Par contre, s'ils sont allergiques au lait, évidemment, il y en a partout. Donc là, c'est plus compliqué. C'est les mamans qui préparent le panier repas pour l'enfant.
Pour ces parents-là, enfin les parents, ça doit être quand même une sacrée angoisse hein, quand on les laisse même à un goûter d'anniversaire ou vraiment que tout le monde soit bien éduqué dans la famille à ça. Hein,
oui,
c'est,
oui
ça.
C'est très très angoissant. Il y a beaucoup de parents qui ont vraiment très peur de la réaction. C'est pas facile au quotidien. Ça met du temps pour faire les courses. C'est pas facile de sortir au restaurant, de faire confiance quand on a un enfant allergique. Effectivement, il y a un gros retentissement sur la qualité de vie.
Et à part ça, bon, vous parlez de l'éviction qu'on apprend dès le plus jeune âge, mais en plus ces enfants-là, il n'y a pas de traitement particulier aujourd'hui. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un médicament qu'on puisse prendre qui fait que cet enfant n'est plus allergique, ça n'existe pas. Hein.
Non, la baguette magique, on ne l'a pas. Il n'y a pas de traitement pour enlever définitivement l'allergie.
Il y a l'immunothérapie orale, par contre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette immunothérapie orale? Là, ce n'est pas un médicament, hein, ce n'est pas des gouttes. C'est quoi, précisément?
Alors, l'immunothérapie orale, ce n'est pas destiné à tous les enfants ni à tous les types d'allergies. Et ça ne se fait que dans des centres qui sont habitués à la pratiquer. Ça consiste à donner l'allergène en petite quantité qui ne déclenche pas, évidemment, de symptômes à l'enfant. L'enfant, dans des conditions très strictes, en respectant de certaines règles, doit prendre l'allergène tous les jours. Et petit à petit, le but, c'est d'augmenter son seuil réactogène, c'est-à-dire qu'au lieu de réagir à une petite poussière de cacahuète, il puisse tolérer 3-4 cacahuètes et du coup ne pas être en danger s'il croque par erreur dans quelque chose qui en contient.
Jimmy ?
C'est un peu comme la désensibilisation alors en fait.
Oui, c'est la même chose qu'une désensibilisation, sauf que ça n'existe pas pour les aliments avec les petites gouttes comme on a l'habitude. Donc on le fait avec des produits du commerce.
Et quand ça marche à 100%, c'est-à-dire que derrière ils peuvent remanger l'aliment auquel ils étaient allergiques auparavant ?
Alors non, on ne parle jamais de guérison totale, c'est-à-dire que souvent le but c'est juste d'augmenter le seuil auquel l'enfant réagit. Mais on sait qu'au terme de l'immunothérapie orale, si l'enfant arrête de consommer complètement l'aliment, il y en a 50% qui risquent de redevenir allergiques. Donc c'est un traitement dans lequel on s'engage un peu à vie, donc ce n'est pas sans contrainte.
C'est un petit curly tous les jours pour ceux qui sont allergiques aux arachides, par exemple.
Ouais,
il
ne
faut pas oublier
ça.
De le manger, son aliment ennemi, entre guillemets. Il faut en manger un petit peu tous les jours.
Bizarrement,
en fait.
Chez les enfants allergiques à l'arachide, c'est vraiment une corvée de prendre le curly, ça nous paraît nous quelque chose de pas très compliqué,
c'est
mais eux,
bon,
ils détestent ça en général, ils ont un dégoût de l'aliment assez important.
Ah oui, donc c'est pour ça aussi que vous dites que c'est pas possible pour tous les
non,
allergiques, il y en a qui accepteraient même pas,
oui,
en
oui,
fait,
oui,
c'est
bien
ça
sûr, ouais.
Parce qu'il y a une terreur sur l'aliment en fait, c'est ça carrément.
Oui, alors ils ont un dégoût, il y a une terreur, et puis il y a des enfants qui sont trop allergiques, c'est-à-dire que même le petit bout de curly, il passe pas.
Parce la petite poussière de curly, voilà, ça passe pas.
On a des enfants qui réagissent à 1 mg de cacahuète. Pour vous dire, une cacahuète, ça fait à peu près 600 mg, donc c'est vraiment des toutes petites...
1 mg, il y a réaction.
C'est
pour ça qu'on est d'accord, cette immunothérapie orale, donc habituer petit à petit l'enfant avec des micro-mini-mini-mini doses, ça doit se faire absolument dans un milieu hospitalier.
Ah oui.
C'est pas les parents d'enfants allergiques qui doivent gérer ça à la maison en disant allez, tiens, on va t'habituer petit à petit
non,
à manger
pas du tout.
Des
cacahuètes.
Il n'est
pas question de faire ça parce que c'est une prise de risque, hein, bien entendu. Donc ça se fait que
c'est un protocole.
Oui, voilà. Ouais. Que dans les centres qui sont habilités à
Et vous les voyez tous les combien, les enfants, ça prend combien de temps ce traitement, enfin cette immunothérapie orale?
Ça dépend de quel seuil réactogène ils partent. Hein, quand ils sont à des toutes petites doses qui déclenchent, forcément on les voit plus longtemps que s'ils tolèrent déjà une cacahuète entière.
Jimmy?
Est-ce qu'on a l'espoir un jour de guérir définitivement toutes les allergies? J'ai cru comprendre que vous étiez à un congrès d'allergologie. Est-ce qu'on a des nouvelles pistes un peu prometteuses qui nous permettent d'aborder de nouvelles techniques au traitement?
Alors ça change beaucoup en allergologie, il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Actuellement, il y a des études notamment sur les biothérapies qui sont des anticorps dirigés par exemple contre les anticorps de l'allergie, les IgE.
C'est quoi, c'est des piqûres, ce serait des injections ça ?
Oui, c'est sous forme d'injection. Alors après, les traitements ne sont pas pour l'instant miraculeux, mais probablement qu'il y aura un arsenal thérapeutique un peu plus étendu dans les années à venir que ce qu'on a actuellement à proposer.
Et la piste du microbiote, nous on en parle beaucoup dans l'émission, donc de notre flore intestinale, ça aussi, ça fait partie des pistes étudiées, hein, je crois, pour
Alors
combattre les allergies demain, peut-être.
Oui, bien sûr, c'est étudié. On sait que les altérations du microbiote, elles sont aussi responsables des allergies alimentaires, donc il y a beaucoup d'études en cours.
Après, c'est-à-dire qu'on sait qu'un enfant allergique, il a un microbiote
qui n'est pas le même que quelqu'un qui n'est pas allergique.
Il est comment, par exemple ?
Qui est souvent plus pauvre. C'est souvent des enfants qui ont eu plus facilement des césariennes, des antibiotiques de façon répétée, etc., avec des altérations du microbiote. Mais pour l'instant, il n'y a pas un probiotique qu'on pourrait donner pour prévenir l'allergie alimentaire.
Mais il y a des études sur cette piste-là,
voilà,
on imagine comment enrichir cette flore intestinale
exactement.
Chez ces enfants-là
ouais.
pour les guérir peut-être demain.
Oui, oui, exactement.
Il y a des tests sur des souris déjà, des choses
oui,
comme
oui,
ça
tout
en
à
cours.
Fait, ouais.
D'accord. Et donc, en trouvant les bonnes bactéries, on pourrait les guérir. Mais juste une dernière question, les allergies alimentaires, parfois, elles guérissent de manière vraiment spontanée, comme ça, tout d'un coup, on n'est plus allergique.
Oui, ça peut arriver, c'est ce que je disais pour le lait et l'œuf. Après, pour les autres allergènes, c'est quand même plus rare la guérison spontanée. Alors, après, tout peut se voir en médecine, ça peut arriver dans certains cas, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent.
Pour terminer, je crois que vous avez un message pour les parents eux-mêmes allergiques. N'anticipez pas trop la survenue d'une allergie chez vos enfants, pas de test préventif, pas d'éviction préventive, ça peut même empirer les choses, vous dites.
Oui, le fait de dépister les allergies alimentaires par des tests, ça ne montre pas forcément des allergies. Ça peut juste montrer que le corps est en train de fabriquer des anticorps. Et dans ces cas-là, on a souvent comme réflexe d'éviter l'aliment. Et en fait, on sait qu'il faut au contraire donner l'aliment régulièrement. Actuellement, les conseils de diversification, c'est plutôt de diversifier tôt pour prévenir les allergies alimentaires.
Pour les enfants qui deviendront potentiellement allergiques.
Voilà,
ouais.
Et que le fait au contraire de faire des régimes d'éviction, on met ces enfants à risque de devenir vraiment allergies alimentaires avec des allergies alimentaires sévère. Donc vraiment le message, c'est pas de dépistage systématique s'il n'y a pas de symptômes. Alors évidemment, si l'enfant à l'apéritif, il a fait une réaction tout de suite qui l'a fait peur, on ne lui redonne pas de cacahuètes. Mais par contre, si l'enfant a vaguement de l'asthme la nuit, c'est pas la peine d'enlever le lait de façon systématique.
Merci beaucoup Dr Billard-Larue d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur les allergies alimentaires chez les enfants et comment les prendre en charge. Merci encore.
Merci.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un accident de la vie courante, l'étouffement chez un adulte. Une prochaine fois, on parlera des enfants. Savez-vous comment réagir si l'un de vos proches avale de travers un aliment pendant les fêtes, par exemple, ou même dès ce soir? On va vous expliquer les bons gestes, bien sûr. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un accident de la vie courante, l'étouffement chez l'adulte, parce que chez l'enfant, c'est un petit peu différent la prise en charge, on en parlera une autre fois. Alors savez-vous comment réagir si l'un de vos proches s'étouffe, avale de travers et que cela reste coincé? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
L'étouffement, souvent en mangeant, en avalant de travers.
Alors une fois, je me souviens, j'étais rue de Rivoli, et il y a un vieux monsieur qui allait chez le dentiste et qui est tombé et qui a commencé à faire un truc genre...
Il se trompe de canal, on sent que ça passe pas dans le bon sens et que ça bloque, que ça passe pas.
Soit appeler quelqu'un autour de soi qui connaît peut-être les premiers secours.
Généralement, on a besoin de l'aide de quelqu'un, taper dans le dos pour reprendre sa respiration. Le réflexe qu'on a tous, c'est de taper dans le dos. A priori, je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit... très bon.
L'idée m'effraie, puisqu'en fait, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire à ce moment-là, comment réagir, comment la personne, est-ce qu'elle va tomber
Moi, mon conseil, ce serait effectivement pour diminuer le risque de bien mâcher.
Non, déjà, je dirais mettre la personne en sécurité et ensuite peut-être appeler les pompiers. Et si on a des rudiments de maniement, de manœuvre de sécurité, etc., par exemple, la manœuvre de Heimlich, à ce moment-là, lui faire.
Alors Dimi, on va parler de l'étouffement. En général, par chance, ça se produit lors d'un repas avec des gens autour. Bon, il faut espérer, sinon si on est tout seul, c'est plus embêtant. Mais par chance, quand ça se produit comme ça, il y a des gestes à faire en cas d'urgence. Vous allez nous expliquer. Je précise juste une chose, hein, quand un aliment donc, passe de travers, on fait une fausse route, vient donc obstruer les voies respiratoires. Il y a en fait deux sortes d'étouffements. Je fais un peu ma savante là parce que je suis assez forte. En fait, j'ai passé mon brevet PSC1, brevet de secourisme. Donc il y a deux obstructions, l'obstruction totale ou partielle. Et pour arriver à différencier, c'est assez simple. Hein. Je vous l'explique comme si vous ne saviez pas, j'adore Jimmy faire ça, genre je vous apprends des trucs. Une personne dont les voies respiratoires sont totalement obstruées, elle essaie de tousser mais il n'y a aucun bruit, elle ne peut pas parler. Par contre, si c'est la personne tousse, respire et parle, c'est que c'est partiel. Alors si c'est total, on fait quoi Jimmy? Si c'est totalement bloqué, qu'il n'y a rien qui sort comme
bruit. Alors vous l'avez très bien dit, si c'est partiel et que la personne tousse, on ne fait rien. On la laisse expulser le corps ou le faire migrer à un autre endroit. En revanche, s'il n'y a plus de voix, plus de son, ça ne respire plus.
Urgence.
Le premier geste à faire, donc il y en a deux, c'est de mettre 5 grandes claques dans le dos entre les deux omoplates avec le dos de la main et regarder entre chaque claque si finalement on a réussi à expulser le corps. Et si ça ne marche pas,
on fait quoi?
On passe à l'étape d'après.
Ah, vite.
Et dans le micro-trottoir, on entend les gens, ils connaissent toutes ces manœuvres, mais souvent ils ne le font pas. On fait la manœuvre d'Heimlich, qui consiste à être derrière la personne.
C'est les compressions abdominales.
Les compressions abdominales au niveau de l'estomac, on appuie et on tire vers le haut pour essayer, avec un effet piston, un peu de pression, d'expulser le corps étranger pour qu'à ce moment-là, la personne puisse respirer. Et si ça ne marche pas, eh ben on repasse aux claques.
On alterne. 5 tapes, hop,
manœuvre d'Heimlich, 5 claques. Et dans l'immense majorité des cas, on arrive à faire expulser le corps étranger.
Et si la personne, parce que bon, mine de rien, quand on s'étouffe avec un aliment, au bout d'un moment, il manque d'air, donc elle peut perdre connaissance. Là, on continue à taper, on fait quoi?
Alors si là, du coup, elle ne respire plus, puisque le corps étranger obstrue totalement les voies respiratoires, il n'y a pas de pouls, pas de respiration, c'est l'arrêt cardiaque. À ce moment-là, on fait les manœuvres de réanimation. Donc on fait les compressions avec le massage cardiaque en continu.
On appelle le SAMU, les pompiers avant.
On appelle le SAMU et on allonge la personne, on fait les gestes de premier secours. Et à ce moment-là, on attend que le régulateur du SAMU ou des pompiers vous donne les consignes. Donc bref, une personne qui ne respire plus, qui ne parle plus, qui n'a plus de pouls, massage cardiaque en continu.
D'accord. Et bien sûr, tous ces gestes dont on vient de parler, les claques dans le dos, la manœuvre de Heimlich, on ne sait jamais les faire mieux que quand on les a déjà essayés.
On fait bien ce qu'on fait souvent. Voilà. Formez-vous.
Donc, on fait quoi?
On fait la formation PSC1, c'est 10 heures, voilà, ça coûte 60 euros. Certains organismes le prennent en charge. C'est très vite rentabilisé. Vous allez voir que vous pourrez peut-être sauver des vies. Les gens sont bien mieux formés à l'étranger que chez nous en France.
Donc, un peu de progrès. Et donc, si tout le monde passait ce brevet, au moins ce niveau 1 de secourisme, on pourrait sauver beaucoup plus de vies. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, ce sera la chronique sexo que certains attendent tous les jours avec impatience. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de la nudité à la maison quand on a des enfants. Doit-on se cacher devant eux? Si oui, y a-t-il un âge en particulier auquel voir ses parents nus devient vraiment dérangeant? Catherine va tout nous expliquer. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle arrive dans le studio. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Marina. Marina, je vous lis sa question. Avec mon mari, nous avons pris l'habitude de ne pas fermer la porte lorsqu'on s'habille. Dans la salle de bain ou dans notre chambre, nous n'avons aucun tabou concernant la nudité devant nos enfants. Mais ils font souvent burk en voyant leur père. Faut-il se cacher, Catherine? Catherine, c'est fréquent les personnes qui assument comme ça leur nudité finalement, comme Marina et son compagnon, que ce soit tous les deux ou en famille finalement?
Oui, bien sûr, et heureusement, et d'ailleurs ce devrait être assez simple de l'envisager comme ça, même s'il faut le réfléchir selon le temps de l'enfant et selon le contexte. Mais oui, être tranquille dans sa nudité, c'est plutôt une bonne chose, ça encombre déjà beaucoup moins notre sexualité par exemple.
C'est pas du nudisme, enfin, du naturisme, du voyeurisme, tout ça, ça n'a rien à voir, le fait de se balader tout nu chez soi.
Bah, naturisme n'est pas quelque chose de négatif, mais ce n'est en tout cas pas nécessairement de l'exhibitionnisme.
C'est ça que je voulais dire, très
absolument.
Bien. Merci.
Et les parents, ils ne sont pas en train d'imposer leur nudité à des enfants qui n'ont rien demandé?
Alors, c'est là toute la difficulté, effectivement. Parce que si être nu, les choses sont assez simples. Évidemment, ils ne sont pas nus en train de faire leur shopping ou en train de dîner ou de jouer aux échecs.
Ils jouent beaucoup aux échecs, Jimmy Mohamed, j'ai remarqué. Il cite souvent cet exemple-là.
Habillé, hein, je vous le dis tout de suite.
Habillé, d'accord. Mais effectivement, ils sont dans la salle de bain. C'est assez logique dans une salle de bain de pouvoir être nu. C'est assez logique de s'habiller, de se déshabiller dans sa chambre. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème à cela. Et puis, on pourrait se dire que dans la mesure où les enfants ils sont exposés, c'est parce qu'ils viennent en ces lieux. C'est-à-dire, ils viennent le voir, tout en ne l'assumant pas toujours. Donc la question, elle est plutôt d'aider l'enfant à respecter aussi l'intimité du parent, non pas parce qu'il y a quelque chose à voir qui serait malsain, mais pour que l'enfant n'ait pas à s'approprier ces images et fantasmer avec ces images une participation, notamment sexuelle, symbolique bien sûr, qui pourrait l'encombrer.
À partir de quel âge il pourrait interpréter comme ça l'enfant?
C'est à compter de... En fait, il va beaucoup s'en amuser à compter de 2 ans et demi, 3 ans, parce que c'est le moment où il sexualise tout, mais ça ne va pas le déranger jusqu'aux environs de 6 ans, 6-7 ans. À partir de 6-7 ans, l'enfant rentre dans une période qui est l'âge de raison, où il va refouler le sexuel parce qu'il n'est pas encore prêt à le vivre, et pourtant il est plein de ces images, et il va du coup être dérangé par la proximité de sa nudité potentiellement avec la nudité parentale. Donc c'est là qu'il faut être absolument vigilant, c'est qu'à partir du moment où l'enfant se cache lui-même, eh bien on ne lui expose pas notre propre nudité.
Jimmy? Et ça marche aussi, c'est-à-dire que le papa n'expose pas sa nudité à son fils de la même façon qu'il ne l'exposerait pas à sa fille? Ou est-ce qu'on peut se dire entre père et fils, ça peut aller, entre mère et fille, ça peut aller, mais on ne mélange pas pour pas choquer, puisque finalement l'anatomie reste la même? Ou au contraire, il faut quand même sanctuariser au-delà de l'âge que vous avez dit?
Oui, moi je crois qu'il faut regarder comment fonctionnent les enfants, bien sûr aussi, mais parce qu'à partir de 6-7 ans, par exemple, l'enfant va évidemment, le petit garçon, se comparer à son papa, donc c'est le petit zizi face au grand zizi qui peut, selon la qualité de la relation, au contraire, être un encouragement à devenir grand plus tard. On est entre mecs, on va tous pisser en randonnion au fond du jardin. Les garçons aiment beaucoup ce genre de choses. Il y a toutes les générations qui sont là, qui font pipi. Bon, pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose de plutôt rentré dans le groupe des hommes.
La tribu masculine.
Exactement, donc plutôt chouette. Comme aussi être à la piscine avec maman, mes tantes, et qu'on se déshabille et qu'on voit les seins des unes quand l'autre n'en a pas. C'est aussi un encouragement quand je serai grande. Sauf si, effectivement, l'enfant, si la relation est une relation de domination, domination du parent sur l'enfant, une relation de « tu es un petit, je suis un grand », à ce moment-là, la perception de la nudité du parent devient une façon supplémentaire d'imposer une sorte de tyrannie ou en tout cas d'autorité du parent sur l'enfant. Donc il vaut mieux laisser l'enfant grandir tranquillement sans lui donner des modèles pour qu'il prenne tout le loisir de son élan personnel.
Et si on ne prend pas ces précautions-là avec l'enfant qui peut être commencé à être dérangé vers 6-7 ans devant la nudité de son père ou de sa mère, est-ce que ça peut créer des traumatismes pour lui plus tard si on l'oblige à être exposé à ça sans y faire attention, je veux dire, pas forcément en s'exposant volontairement, mais...
Oui, il faut faire attention de ne pas être égoïste, c'est-à-dire que son confort personnel ne tient pas compte du confort de l'enfant et de la préoccupation de l'enfant. Parce que sinon, du coup, l'enfant va avoir le sentiment d'avoir participé à quelque chose ou de ne pas être à la hauteur de quelque chose, et il va se construire sur cette base-là. Alors, fort heureusement, dans les histoires de chacun, il y a des événements qui vont permettre de court-circuiter ce qui peut être anxiogène et éventuellement apporter d'autres valeurs, mais ça peut ne pas être le cas, et du coup ça fait des sexualités encombrées, des sexualités coupables, des sexualités qui se refoulent et qui peuvent être du coup un vrai encombrement dans la vie de l'adulte que l'enfant sera plus tard.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à l'otoplastie, une opération chirurgicale qui permet de corriger certaines malformations comme celle des oreilles décollées.
15h-16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.